École,
éducation,
numérique. Nipédu.
Bienvenue dans Nipédu épisode 77. Et pour cet épisode 77, j'ai toujours la chance d'être avec Carabas 77, alias Fabien Aubard. Salut Fabien.
Salut Régis Forgione, alias prof des écoles. Est-ce que tu vas bien?
Je vais très bien parce que ce soir, on retrouve un invité que je crois qu'on n'a jamais eu pour nous tout seuls dans une émission complète. C'est Bruno de Vauchel. Bonsoir Bruno.
Bonsoir à tous les deux et merci de m'accueillir parmi vous pour cette émission.
Ah ben nous, on est super contents. On va avoir une bonne heure pour discuter autour de la sortie de ton livre « Éduquer avec », j'allais dire par le numérique et je me serais fait gronder. Oh là là, « Éduquer avec le numérique ». Donc là, vraiment, pour nos auditeurs, on a décortiqué le livre de Bruno, dont on vous mettra toutes les informations dans les notes de l'émission. On a structuré une émission autour de plein de questions qu'on se posait autour du numérique, et donc une émission vraiment école et numérique. On a structuré en trois temps, et je vous propose qu'on se lance tout de suite.
Le dossier de Nipédu.
Le dossier.
Dans le vif du sujet, avec la première partie qu'on a intitulée « Environnement numérique égale famille plus école plus société, équation insoluble ». Alors, pour cette première partie, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Bruno, pour nous, tu es un jeune chercheur, mais est-ce que tu pourrais te présenter plus avant pour les auditeurs?
Alors, je suis d'abord un jeune universitaire. Donc, un jeune chercheur, car un universitaire est aussi un chercheur, aussi un enseignant. Non, en fait, ça fait très peu de temps que j'ai rejoint les bancs de l'université. Ça fait en fait 4 ans que j'ai rejoint les bancs de l'université pour participer à la dernière partie de ma carrière professionnelle. Après avoir été sur les bancs du lycée professionnel et puis ceux de la formation des enseignants, mais aussi de la formation continue des adultes, et terminer autour de la question universitaire était un moyen aussi de trouver, je dirais, un aboutissement à une démarche personnelle, d'abord, de compréhension de l'univers dans lequel je vis et de prise de distance aussi par rapport à une période qui est fantastique, qui est vraiment fantastique. J'ai eu la chance d'arriver dans l'enseignement en 79 avec les derniers studios de télévision, les caméras, etc. Et puis d'un seul coup, de découvrir cet ordinateur et de me dire, là, on a quelque chose à faire. Et si on fait rien, c'est une catastrophe. Alors, passer de l'action de terrain à la réflexion sans perdre l'action de terrain, parce que c'est ça l'intérêt d'être enseignant supérieur aujourd'hui, c'est qu'on est aussi en action. J'ai mes étudiants, j'ai mes interventions aussi auprès d'élèves parfois. Et ça, c'est passionnant quand on arrive presque à la fin de sa carrière professionnelle de pouvoir synthétiser tout ça et d'avoir un petit peu cette perspective que la recherche permet. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis un jeune chercheur.
Tu es, à côté de ces activités d'enseignement et de recherche, un auteur aussi. Tu n'en es pas à ta première publication. Aujourd'hui, tu nous offres un objet livre, mais cet objet livre, il a une genèse. Hein. On en parlait en off tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors, l'écriture en général, c'est quasiment une deuxième nature qui m'est apparue au fur et à mesure du temps. Et en particulier, je me suis aperçu que beaucoup de questions d'acteurs de terrain ne trouvaient pas de réponse dans le quotidien. En 1997, je faisais des interventions dans les établissements scolaires sur l'arrivée d'Internet et autres, et puis j'avais pas mal de questions qui étaient posées. Et j'ai trouvé deux moyens d'y répondre. Écrire un livre, c'est le premier, Multimédiatiser l'école, qu'on peut trouver en ligne sur mon site d'ailleurs pour la version, l'avant-dernière version. Et puis j'ai monté une liste de diffusion à l'époque, une diffusion avec les gens que je rencontrais. Et petit à petit, ça a essaimé jusqu'au moment où j'ai rejoint le Café Pédagogique, qui est ce site en ligne qui est bien connu maintenant. Et je l'ai rejoint parce que ça faisait partie un peu des regroupements de ces enseignants qui avaient envie de partager. Parce que c'est vraiment ça le fond du problème, c'est partager. Partager en écrivant, partager en intervenant. Et donc, j'ai eu l'occasion au cours de toutes ces années de pouvoir produire un certain nombre d'écrits pour le café, donc de prendre de l'aisance dans l'écriture, de faire en même temps ma thèse, parce que en fait, moi je suis un jeune chercheur, mais je suis un jeune thésard. Enfin, j'ai terminé ma thèse en 2004 à l'université, ce qui m'a beaucoup formé aussi à la qualité d'écriture. C'est pour ça que souvent, dans le livre, j'ai des références à des travaux d'autres chercheurs, parce que ça, c'est important. Et puis, en 2012, j'ai commencé à publier une série de chroniques hebdomadaires. Alors, la chronique hebdomadaire, c'est un exercice un peu particulier, un peu difficile parfois, parce qu'il faut alimenter une réflexion. Et donc, c'est un cheminement dans la tête et en même temps un cheminement avec les gens. Et donc, cette chronique a amené pendant 4 ans, et elle continue encore aujourd'hui, toutes les semaines, elle a amené à compiler un certain nombre de réflexions, parfois qui reviennent un peu de manière cyclique, non pas des marronniers, mais plutôt des préoccupations de fond. Et ce livre est en fait issu de toute cette réflexion rassemblée dans les différentes chroniques que j'ai faites et que j'ai essayé de restructurer en vue de les rendre accessibles sous une forme thématique. Une forme thématique qui vise à faire comprendre, comme on le disait tout à l'heure, que famille, école et société, c'est probablement une équation insoluble. C'était à la base de mes travaux universitaires quand j'ai repris mes études vers 40 ans. C'était à la base de mes réflexions. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Et donc, le livre vient à point nommé, et c'est pour ça qu'il s'appelle « Éduquer avec le numérique » et non pas « par le numérique », parce que nous vivons avec le numérique. Et qu'aujourd'hui, chacun de nous, parents, adultes, enseignants, travailleurs, X, Y, Z, nous sommes avec le numérique. Donc, éduquons avec le numérique comme nous vivons avec le numérique.
Alors, des publications sur le numérique, éduquer avec le numérique, tu viens de le dire, nous vivons avec cet environnement-là. On avait envie, avant d'entrer plus en avant dans le vif du sujet, de connaître ton environnement numérique avec toi, ton environnement numérique de travail.
Alors, moi, mon environnement numérique de travail, il est d'abord fondé sur le nomadisme, c'est-à-dire l'ordinateur portable. Depuis, je dirais, les premiers ordinateurs portables, pour ceux qui se rappellent, c'était des grosses valises de 12 kilos qu'on trimballait, j'ai tout de suite été branché par l'ordinateur portable, et donc je ne travaille qu'avec des ordinateurs portables, éventuellement une tablette, éventuellement un téléphone portable, un smartphone, et puis beaucoup de disques durs. Alors ça, c'est intéressant parce que je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis quelqu'un qui est très méfiant sur l'endroit où sont stockées mes données. Quand je dis très méfiant, c'est entre guillemets. Je veux dire par là que moi, je tiens beaucoup à avoir une maîtrise de mon environnement de travail et donc une maîtrise des objets avec lesquels je travaille. J'aime bien avoir des livres chez moi, j'en ai beaucoup à la maison. Ça va être 1200, 1400, 1500 pour le sujet qui m'intéresse. Mais j'ai aussi mes disques durs dans lesquels je stocke plein de choses depuis 20, 25 ans. Mais ils sont disques durs à la maison ou dans mon sac. Et ce n'est pas neutre ce que je dis là, c'est parce qu'aujourd'hui, au moment où on nous parle du nuage, de déposer nos choses, nos affaires ici ou là, on ne sait pas où elles sont, moi je pense qu'il faut ne jamais oublier d'avoir aussi chez soi son environnement numérique de travail simple. Alors ça, c'est l'environnement physique. Mais il y a aussi l'environnement, entre guillemets, logique, c'est-à-dire les réseaux. Donc, effectivement, j'ai des abonnements réguliers sur Google+, Facebook, Twitter. Mais je ne suis pas un fanat de l'utilisation quotidienne de ces outils-là. Ce n'est pas mon truc, mais j'utilise de temps en temps. De temps en temps, je vais voir, je fais. Mais ce n'est pas vraiment le majeur de mon environnement. Et puis, il y a cette veille informationnelle, formelle et informelle, que je fais quasiment constamment, à l'aide des abonnements que j'ai, qui vont me permettre de faire ce que j'appelle moi mon EPTC, hein, mon environnement personnel techno-cognitif, c'est-à-dire ce qui me permet, mais comme tu l'as dit, hein, c'est quoi ton environnement? Mon environnement, c'est et autour de moi, mais aussi dans ma tête. Dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai essayé d'associer ma dizaine de disques durs qui sont un peu en bazar avec ce qui est dans ma tête, qui est un petit peu en bazar aussi, essayer de le structurer.
Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur le fait de garder aussi les données numériques à la maison et de conserver, d'être responsable de ces données. Mais on va quand même juste, je vais essayer de revenir dans le lien de cette première partie. Et d'ailleurs, tu en causes en sous-texte là. Une petite citation issue de ton bouquin. Tu dis « Le fait est là, entre famille et école, c'est glisser le numérique et sa troisième logique. » Et du coup, sont apportées pas mal de pistes et d'éléments dans le bouquin, sur comment accorder ces trois logiques pour mettre en musique un monde numérique cohérent, en tout cas, de mon point de vue, pour les élèves. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots?
Alors, Je crains beaucoup de restreindre si nous ne parlons que des élèves et si nous ne parlons pas des jeunes. Je m'explique. Je pense que, à l'instar de Paulo Freire ou d'autres, je suis en train de chercher un nom, mais je l'ai perdu, mais ce n'est pas très grave, je pense qu'il faut déscolariser un petit peu l'école. Et que le numérique, c'est le moyen de déscolariser un petit peu. Hein. C'est Ivan Illich, voilà. Le vrai titre de son livre, c'est « Déscolarisons la société » et non pas « Une société sans école », contrairement à ce qu'il écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le numérique, c'est le moyen de faire du lien et en même temps d'ouvrir des portes. Ouvrir les portes de la famille, bien évidemment, mais ouvrir les portes de l'école. Et donc, de ne plus faire que ce lien soit un lien, je dirais, une forme de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. La famille ayant besoin de l'école pour tout, eh ben, elle n'a peut-être pas besoin de l'école pour tout. Et l'école ayant besoin de s'abstraire de la famille, et peut-être qu'il faut plus s'abstraire de la famille comme on le faisait avant. Donc, du lien, une troisième logique, une logique de communication, une logique de partage, une logique d'échange, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une logique de séparation et de séparation des pouvoirs.
Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs fils conducteurs hein, dans ce livre. Tu parles de la déscolarisation, on reviendra sur le thème de l'innovation, du carcan scolaire aussi qui est très en lien avec celui de la déscolarisation. Moi, c'est des choses qui m'ont extrêmement touché dans le bouquin, Bruno. Juste pour clore avec cette première partie, qui est une partie plutôt générale, et pour du coup reprendre un petit peu de distance avec la question qui t'a été posée par Régis, puisque les éléments de réponse sont dans ton bouquin, qu'on invite vraiment les poditeurs à aller se procurer rapidement. On a beaucoup parlé dans IPEDU d'une série qui aborde sous l'angle de la dystopie ce que pourrait être une société numérique qui tourne mal. Donc sans aller dans de ce côté-là ou du côté d'Alain Damasio dont Régis a parlé dans des précédentes émissions, ce serait quoi le fait numérique à l'école d'ici, allez, disons une dizaine d'années, le fait numérique à l'école en 2027, comment tu te l'imagines, toi?
Alors, si vous êtes 2027 seulement, mais c'est déjà pas mal, pour moi, je l'imagine comme je l'ai imaginé en 2003. C'est-à-dire un fait numérique à portée de la main, mais situé à sa juste place. C'est-à-dire, on a retrouvé le corps, on a retrouvé la parole, et on a su articuler le corps, la parole, le sujet avec ce numérique. C'est que le numérique n'est pas venu remplacer tel un robot, n'est pas venu, pas du tout, pas du tout. Au contraire, il a réussi à être omniprésent de manière consciente, mais justement dans ses articulations auxquelles justement le numérique est particulier, pour lequel il est particulièrement pertinent. J'avais dit en 2003 dans une émission de radio à France Culture, j'avais dit c'est l'ordinateur à portée de la main. Hein, ces fameuses histoires de l'ordinateur à portée de la main, et je n'en démords pas. Et je me suis aperçu que c'était une idée qu'il fallait conserver, parce qu'en réalité, quand on travaille avec les enseignants qui ont découvert l'ordinateur à la portée de la main, et en particulier avec le BIOD, le Bring Your Own Device, où effectivement, c'est ça que ça veut dire. C'est que ben, finalement, les enseignants ont bien compris que comme c'était là, comme c'était tout prêt, eh bien, pourquoi ne pas l'utiliser ? Mais ça ne veut pas dire que ça va remplacer, etc., le mythe des robots, etc. Arrêtons de fantasmer là-dessus. On a besoin aussi d'un retour à l'humain, on a besoin aussi d'être en interaction humaine, en même temps, en présence et à distance. Il ne faut pas que ce soit des ruptures, que ce soit des oppositions. Et je ne pense pas qu'en 2027, on ira vers des oppositions. Je pense qu'au contraire, on ira vers des vraies complémentarités. En tout cas, je le souhaite.
Tu nous offres là une transition en cadeau pour la deuxième partie autour de l'innovation et d'une certaine inéquation numérique qui serait le numérique est différent de l'innovation, Fabien.
Oui, on en parlait juste avant, hein, parmi ces fils conducteurs, on a celui de l'innovation. Avec un point de vue qui semble être le tien, c'est celui d'une espèce d'injonction à l'innovation depuis quelque temps que tu sembles dénoncer, en tout cas que tu analyses avec beaucoup de circonspection. À ton avis, dans les mots mois, les années qui vont venir. Régis parlait il y a pas longtemps d'un article qui lui-même faisait référence à une éloge de la maintenance. Est-ce que toi, tu penses qu'il va continuer à y avoir cette course effrénée vers l'innovation qui passerait notamment vers l'intégration, alors bon an mal an, j'ai envie de dire, du numérique dans les pratiques pédagogiques, ou est-ce qu'on va être sur une phase de stabilisation, de percolation, pour reprendre les termes de Marcel Lebrun?
Alors, disons que là, on a affaire à deux problèmes différents. Il y a un premier problème qui est le problème du progrès et de la technologie, au-delà du numérique. Nous sommes dans une fuite en avant, dont l'innovation, d'ailleurs, est un des emblèmes. On est dans une fuite en avant dont on a du mal à comprendre la finalité, si ce n'est que c'est une fuite en avant qui est aussi basée sur une évolution des systèmes économiques, des systèmes politiques, qui est aussi une idéologie du progrès qui est bon pour l'humanité systématiquement. Cette fuite en avant, c'est pas moi qui la dénonce, hein, elle est dénoncée depuis longtemps, elle est expliquée depuis longtemps par Jacques Ellul en particulier, et Jacques Ellul disait qu'on est en train de remplacer la réflexion par le réflexe et que c'est un danger. Et je crois qu'effectivement, si nous ne sommes pas vigilants, nous allons dans une fuite en avant vers l'innovation et on perd pied, je dirais. Alors maintenant, c'est parce que le progrès technique, parce que là pour l'instant, on nous parle d'informatique, mais parlons de bio-informatique, parlons de nanotechnologie, parlons de choses beaucoup plus souterraines qui pour l'instant n'apparaissent pas encore, mais qui sont réellement dans des travaux de recherche en ce moment, pour comprendre que ce progrès scientifique et technique est en même temps une fuite en avant du monde. Alors, si je joue comme le faisait Jacques Ellul, qui est le père de l'écologie contemporaine, je dirais que nous allons dans une fuite en avant pour ne pas mourir de nos propres erreurs, et que c'est un peu le danger. Je ne souhaite pas que ce soit comme ça. Du coup, ça veut dire que l'innovation va, je dirais pas percoler, parce que je n'aime pas que l'on dise que l'innovation doit percoler, parce que c'est une erreur du modèle Samer ou du modèle qu'a fait Carcinti. On imagine qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie, c'est la sortie par l'innovation. Non, la sortie, c'est par l'ordinaire, c'est par le quotidien. C'est ce que je défends beaucoup depuis quelques temps, c'est de dire non, il y a une stabilisation lente qui se fait, qui est aussi une adaptation à la réalité du quotidien. Ça ne veut pas dire que le numérique rentre partout, ça veut dire qu'il se met à sa juste place. C'est un petit peu différent. Et qu'il ne transforme pas tout, c'est pas le numérique qui transforme tout, c'est l'humain qui va transformer tout. Et il va le transformer, pourquoi? Parce que effectivement, il a des moyens de le faire. Des moyens de le faire, on le voit actuellement dans le renouveau des démocraties participatives. On le voit dans le renouveau de tout ce qui est le crowdfunding, et je dis bien le renouveau, parce qu'il y a eu le temps de l'expression, et maintenant on entre vers un temps de je rêve, hein, en même temps, je rêve d'une nouvelle solidarité mondiale, d'une solidarité planétaire qui adviendrait avec cela et dans laquelle l'éducation aurait juste sa place. Ce n'est pas une innovation, c'est surtout d'abord le retour au fondement de l'éducation, au fondement de l'éducation voulue d'ailleurs à la Révolution française, qui est une nouvelle solidarité sociale. Ce que je dis souvent, c'est on nous dit « ah oui, il faut développer le vivre ensemble », mais non, il faut développer le faire société. C'est-à-dire qu'il faut retravailler avec le numérique sur qu'est-ce que c'est que faire société dans un monde numérique. Et là, je pense qu'on va pouvoir trouver des équilibres. Ce n'est pas forcément que l'innovation va percoler, non. C'est qu'il y a des endroits où elle va totalement disparaître parce qu'elle est absurde, elle n'a aucun sens. Il y a des endroits où elle va se transformer si les innovateurs le veulent bien et veulent bien lâcher les prises sur ce qu'ils font. Et puis, les gens vont petit à petit adopter et réguler. Je crois beaucoup à une sorte d'homéostasie, en tout cas d'une régulation un peu naturelle par les acteurs. J'espère simplement que cette régulation ne sera pas cassée par le business, ne sera pas cassé par les intérêts personnels, ne sera pas cassé par des problèmes politiques ou par des problèmes économiques. Ça, par contre, je suis moins certain. C'est pour ça que c'est très difficile d'envisager un avenir autrement qu'en souhaitant une sorte d'écologie du système qui permettrait de réguler. On peut le rêver, c'est peut-être un rêve, je ne sais pas.
Alors encore une fois, hein, tu nous offres la transition. Après la publication des résultats de la dernière enquête PISA, on a entendu de nombreuses voix, et notamment Patrick Rayou, parler de la nécessité de la socialisation des enseignants, notamment en termes de, d'éco-formation de ces derniers. Donc moi, la question que je voulais te poser, et qui fait un petit peu suite à ce que tu viens de dire, c'est quel regard tu portes, nous on le sait un petit peu parce qu'on a lu le bouquin, mais on voudrait que tu le partages avec les auditeurs, sur le fait qu'il y a des expérimentations, en tout cas des pratiques qui soient mises en lumière par l'institution, et puis ces innovations, ces innovateurs dont tu disais tout à l'heure, que est-ce qu'ils vont réussir à lâcher prise et à partager ce qu'ils ont produit, quelles fonctions ils peuvent avoir. Donc ce rapport, cette tension entre innovation et expérimentation, quelles fonctions ça a, et comment tout ça va pouvoir faire corps pour une meilleure socialisation des enseignants et pour un meilleur partage des compétences de chacun.
Vaste question à laquelle il est difficile de répondre, parce que justement, je milite pour que on remplace effectivement l'innovation par l'expérimentation, le droit à l'expérimentation. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de le promouvoir, on a juste simplement le besoin d'ouvrir les vannes un petit peu, de libérer un petit peu des carcans. Beaucoup d'enseignants, je dirais la quasi-totalité d'enseignants, sauf si vraiment ils sont, je dirais, fatigués par le système, cherchent à des portes pour répondre aux vraies questions des jeunes. Ils cherchent ça. Sauf que là, ils sont pris en otage d'un côté par justement cette idéologie de l'innovation, hein, portée par un système qui veut des innovants, mais pris en otage aussi par des élèves qui amènent leurs appareils, bousculent par cet écart qu'ils ont avec eux, pris en otage aussi par un système qui reste quand même extrêmement contraignant, qu'on le veuille ou non, le système ne lâche pas la bride. Et donc, face à ça, il faut réinventer pour les enseignants un droit de faire société dans leur établissement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'établissement, il y a un vrai travail. Alors, je vais m'amuser à employer un peu les mots valises habituels. Il y a un vrai travail d'intelligence collective, d'entreprise apprenante, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut permettre à des enseignants d'être dans l'établissement comme dans un lieu de vie. Je discutais l'autre jour avec une principale dans le cadre d'un projet absolument étonnant qui s'appelle EduMix, qui se passait à Vénissieux, initié par Yves Armel-Martin. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a fait un travail fantastique autour de ce qu'on appelle les EduMix. Et on discutait avec la principale et qui nous disait sa difficulté à piloter une équipe pédagogique quand les gens ne se sentent pas installés dans l'établissement scolaire. Ils sont de passage. Et l'idée d'être de passage dans un établissement scolaire, ça ne permet pas de faire société. Quand je suis touriste quelque part, je suis spectateur de ce qui se passe. De temps en temps, j'interviens, mais pas beaucoup. Je passe un an, je passe deux ans, puis je me dépêche de partir. Et donc, faire société dans ces endroits-là, c'est très compliqué. Et malheureusement, c'est un établissement qui était en REP plus, donc un établissement qui effectivement avait des problématiques lourdes de société. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met là dans des établissements pas les moyens humains de que les humains eux-mêmes fassent société. Alors, ils essayent. Hein. La principale était remarquable d'initiative dans cet établissement. Malheureusement, elle se heurtait à la réalité. Alors, du coup, par rapport à l'innovation et au numérique, on sent bien que là, il y a de quoi faire du bien, mais qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas partir vers l'illusion du numérique qui résout tout. Il ne faut pas non plus lâcher vers, de toute façon, ces jeunes qui sont en difficulté, ils n'ont pas besoin de numérique, il faut d'abord qu'ils apprennent à lire et à écrire. Il faut vraiment trouver le juste milieu pour arriver à faire en sorte que le numérique, ce ne soit pas l'électronisme de demain pour eux. Parce qu'en fait, le risque très grand dans ces unités-là, dans ces unités scolaires-là, qui sont les plus défavorisées, je dirais, à beaucoup de points de vue, c'est que après avoir, je dirais, comme le montre PISA, laissé de côté beaucoup de jeunes, le système français est inégalitaire, eh bien, il sera inégalitaire aussi avec le numérique. Imaginez le drame si dans 10 ans, on s'aperçoit qu'on est passé à côté de la place que le numérique a pris dans la société, parce que dans l'école, on n'a pas été capable de l'intégrer de façon à ce que justement ce soit un ferment pour éviter de creuser à nouveau ces inégalités.
Alors justement, dans une perspective historique, et tu nous disais en début d'émission que tu observes tout ça d'un œil attentif depuis fort longtemps. Moi, je fais partie des élèves qui en primaire, avaient participé au plan informatique pour tous. Et du coup, j'ai un petit peu regardé ça un peu plus tard dans mes études. Le plan informatique pour tous, c'est le plan à cote des années 80 là, pour, via Apple aux États-Unis. Et tu nous dis donc que la technologie n'a a priori pas sa place juste en tant que telle dans l'école et qu'elle peut créer l'effet girouette. On peut avoir plusieurs niveaux de lecture, hein, évidemment, l'effet girouette d'être de l'enseignant qui va essayer toutes les nouveautés numériques. Est-ce que c'est pas aussi l'histoire qui a un effet girouette quand, parce que quand on lit ce plan informatique pour tous des années 80, et pareil, le plan à cote aux États-Unis, on remplace le mot ordinateur par tablette et on a l'impression qu'il s'est passé exactement la même chose dans ces années-là. Et peut-être qu'on revit juste la même chose. En tout cas, on avait déjà parlé de ça, je crois, avec David Wilgenbus dans un épisode de Nipédu. Lui nous disait que c'est sans doute le réseau qui changera tout. Mais est-ce que l'histoire ne va pas retousser une fois de plus?
Alors, il y a deux histoires. Il y a deux histoires. Il y a l'histoire de nos institutions et de leur... en particulier de l'institution scolaire et de son incapacité à inventer de nouveaux modes d'intervention. Parce qu'en fait, si notre président a fait ce plan numérique qui ressemble, et je l'ai écrit étrangement, au plan informatique pour tous, dans les argumentaires, dans les moyens, dans la façon de faire, c'est parce qu'ils n'ont pas été capables, eux, d'innover et d'inventer de nouvelles formes d'intervention. Il y a eu des sursauts à des endroits, à des moments. Le B2I était un sursaut étonnant, même si c'était pas génial, etc., ça on pourra le dire, mais au moins c'était un sursaut étonnant. Il allait en rupture de tout le reste. Il essayait d'ouvrir de nouvelles brèches. Là, le président, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez l'impression qu'il reprend la même idéologie que celle que l'on avait en 1789, en 1791, lorsqu'on faisait l'instruction publique, on montait l'instruction publique, ou au 19e siècle avec Guizot et avec Ferry. On a l'impression qu'on reprend les mêmes modèles de pilotage politique. Pilotage politique, modèle jacobin, etc. etc. Donc, inévitablement, à ce niveau-là, effectivement, on ne fait que se répéter. Par contre, et je ne suis pas insensible à l'argument des réseaux, je m'aperçois que le système scolaire ne fonctionne pas seul. Il ne fonctionne pas seul, il fonctionne dans un contexte de société. Et le risque qu'il y a actuellement, c'est de poursuivre le divorce qui est en train de se prononcer entre une partie de la population et son école. C'est Bernard Charlot qui avait bien montré avec toute son équipe à Paris 8, ils avaient bien montré, avec tous ceux qui l'ont suivi d'ailleurs, combien il y avait un début de divorce qui se faisait dans le modèle de l'école des années 80-90. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, autour du numérique, le risque est le même. C'est qu'on augmente encore le divorce. Mais là, ce coup-ci, le divorce, il n'est plus forcément seulement avec les populations les plus défavorisées qui ne voient plus de sens à l'école, mais le divorce soit avec des populations beaucoup plus favorisées, très enclines à l'usage des technologies, mais qui ne voient plus de sens à la démarche scolaire. Et là, ça pourrait être assez catastrophique, parce que du coup, l'école se disqualifierait. Je dis souvent que l'école est normalement un lieu qui doit tirer le monde vers de nouvelles formes, et non pas à continuer à suivre et à adapter les jeunes au monde. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire comprendre. C'est-à-dire que le monde scolaire et universitaire, le monde de la formation initiale, n'est pas là pour adapter la population à un moule qui est celui des adultes, des vieux, comme moi, mais c'est un monde qui est là pour proposer des nouvelles pistes pour permettre aux jeunes de vivre autrement parce que le contexte est différent. Et le contexte différent aujourd'hui, c'est le contexte technologique. Le risque de divorce est grand, et si on laisse faire ce divorce, le danger, c'est qui va prendre le pouvoir? Qui va prendre le pouvoir? Or, pour l'instant, le pouvoir, il est pris plus par des démarches commerciales et technologiques que par des démarches éducatives. Et le danger, c'est celui-là. Et que donc l'éducation devienne juste une régulation dans une société qui est, elle, régulée par ailleurs par le business, par la rentabilité, par la consommation et par la performance à court terme. Et ça, c'est un grand risque.
Ok, je vous propose qu'on aille en récré, on a eu une bonne demi-heure bien bien dense, là qu'on aille prendre l'air un petit peu en récré, c'est parti.
C'est la récré.
C'est la récré. La récré, la récré, la récré.
Alors, Bruno, as-tu prévu une récré pour nos auditeurs ?
Alors, on peut effectivement trouver plusieurs entrées pour cette récré. Je ne vais pas vous chanter une chanson.
Dommage.
Dommage. D'ailleurs, non, dommage pour moi peut-être, pour vous aussi, mais tant mieux pour les auditeurs, c'est très dramatique. Non, j'ai plutôt envie de retrouver dans cette récréation le chemin des humoristes. Alors moi, je ne suis pas un très bon humoriste, mais je pense que hier, je regardais, Lina en ce moment fait circuler sur les réseaux une vidéo de Pierre Dac et Francis Blanche. Et je trouve que ça mérite d'être écouté. De même, récemment, on écoutait aussi Fernand Reynaud et le fameux sketch du douanier, avec l'histoire du boulanger qu'on met à la porte. Et on s'aperçoit que le boulanger, on met à la porte parce qu'il est étranger. Hein. Sauf que c'est lui qui fait le pain des Français. Et ça me fait penser qu'au coin de ma rue, j'ai un boulanger dont le nom est assez étonnant pour un boulanger français. Il s'appelle Baldani. Il est d'origine effectivement nord-africaine et il a développé des boulanges. Et je trouve ça, j'aime bien les humoristes qui nous permettent de nous retrouver au-delà de nos habitudes et de nous faire penser que, et plus généralement les artistes, hein, les productions artistiques, c'est pour moi un vrai ressourcement que de se dire, eh oui, ce regard décalé, nous on est dedans, on est en permanence dedans. Nous interpellent. Et ce n'est pas forcément ceux qui parlent des technologies qui nous interpellent le plus, hein, mais ceux. C'est pas ceux qui parlent des technologies, c'est plus ceux qui parlent de l'humain, un peu de cet humain décalé. Alors, j'ai écouté aussi un vieux sketch de DeVos. DeVos, il faut le revoir, il faut le relire, on peut dire de Desproges aussi. Moi, j'aime beaucoup ce milieu-là. Et puis, par ailleurs, il y a aussi. D'autres découvertes que j'ai faites récemment. Il y en a une, hier j'étais au cinéma et j'étais voir un petit film que je conseille beaucoup aux enseignants, mais aussi aux autres, parce qu'il est très bien, c'est Le Concours, qui est le concours d'entrée à la FEMIS.
Ah, j'ai vu des extraits, ouais.
C'est très sympa, c'est très sympa. Alors, bon, c'est la FEMIS, c'est la grande école de cinéma, et c'est intéressant parce qu'ils ont accepté de filmer de bout en bout ce que c'est que de recruter et aussi d'écarter des gens. Je pense que ce serait bien que beaucoup d'enseignants le voient pour bien comprendre les logiques d'évaluation, la compréhension, mais aussi ce que c'est que l'apparition de nos futurs réalisateurs, de nos futurs cinéastes. C'est très, très intéressant. Et je trouve qu'aussi les jurys, les membres des jurys qui accueillent les jeunes, ont été d'une grande honnêteté, d'une grande transparence sur leurs forces et leurs faiblesses respectives dans les échanges qui sont présentés. C'est rare qu'on rentre dans un vrai conseil de classe. C'est rare qu'on rentre vraiment dans la problématique d'un élève qui se pose des questions. Et là, ils l'ont fait. Et je trouve que c'est pas mal non plus.
En tout cas, merci pour cette récréation. Hein. On vous met tout ça dans la note de l'émission et j'ai hâte d'aller voir quelques vidéos présentées ici. Du coup, on entre dans la troisième partie de l'émission et cette fois on est dans la logique booléenne. Est-ce que ce sera numérique et pédagogie, numérique ou pédagogie, numérique sauf pédagogie, si ça a un peu de sens? Fabien, je te laisse entrer dans le vif du sujet.
Alors, moi, c'est une partie que j'ai particulièrement apprécié, Bruno, hein, toute la partie autour de la pédagogie, des enseignants, des apprenants, mais aussi des enseignants-apprenants. À un moment, tu évoques une espèce de confusion ou en tout cas un manque de perméabilité peut-être entre les temps d'enseignement, les temps de formation et les temps d'apprentissage. Alors, on parlait tout à l'heure de la formation des enseignants via la socialisation. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces trois temps qui peut-être achoppent pour permettre aux enseignants vraiment d'investir de vrais parcours, enfin, des parcours de formation efficients et notamment sur l'intégration du numérique?
Alors, il faut libérer la soif d'apprendre chez les enseignants, l'envie d'apprendre. Et il faut vraiment la libérer au-delà, je dirais, du carcan dans lequel ils sont. En effet, trop souvent, enfermés dans les logiques institutionnelles, on a l'impression que finalement, on n'a plus besoin de rien faire. Je pense à un certain nombre d'enseignants de collège. J'ai suivi des collèges pendant plusieurs années et j'intervenais auprès des enseignants. Et j'étais assez sidéré d'année en année dans ce petit collège perdu du côté de dans la région de Bergerac, de voir, j'y suis allé 4 ans de suite, et chaque année, on se retrouvait avec les enseignants et on regardait comment ça avançait. Et de voir comment ils ne s'autorisent pas à apprendre au-delà de ce qui est permis. Et ce qui est permis, c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire qu'ils ne se libèrent pas. Alors, je me suis inquiété parce que je suis allé voir du côté du rôle des inspecteurs. Et je suis intervenu récemment auprès des inspecteurs pédagogiques, IA, IPR, IEN et autres. Et je leur ai dit, mais peut-être que vous avez un rôle à jouer vous aussi là-dedans, pour un peu, lâchez la bride, laissez-les, accompagnez-les, arrêtez de leur dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, là, vous n'êtes pas dans la norme, arrêtez, changez de point de vue, permettez-leur de devenir les auteurs de leur enseignement. Parce qu'en fait, moi, quand je vois des jeunes à l'ESP ou dans la formation initiale, quand je les vois comme déjà, ils n'osent même plus poser de questions, comme déjà, ils cherchent à être conformes, je me dis, mais c'est malheureux. Pourquoi ils le sont ? Eh bien, parce qu'on les fait passer sous les fourches codines de la conformité. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à les libérer et de leur permettre d'inventer leur quotidien et non pas de le subir comme ils le font malheureusement trop souvent. Et ça, c'est dommage parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de le faire, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient un confort. Jadis, j'avais travaillé auprès de gens qui étaient demandeurs d'emploi j'avais analysé toute une population pour Pôle emploi qui était la NPE à l'époque et je m'étais rendu compte que même dans une situation de grande précarité, on cherche une certaine sécurité, un certain confort. J'avais appelé ça à ce moment-là le confort de la pauvreté. C'est un paradoxe de parler du confort de la pauvreté. C'est dire que à un moment donné, on franchit un seuil qui est que on devient fataliste et qu'on n'ose plus sortir de son environnement. Et c'est là où, si on veut que l'enseignement et que le numérique puissent prendre la place, il faut qu'on libère justement cette force qui est en chacun des enseignants, mais qui ne s'exprime pas parce que on n'a pas intérêt à l'exprimer. Alors, heureusement, je l'ai vu et je le vois apparaître de temps en temps, ce qui fait que finalement, les temps de formation formelle, à mon avis, bon, ça va bien de temps en temps, une petite conférence par-ci, une petite conférence par-là, un petit machin, ça fait du bien, c'est sympa. Mais s'il n'y a que ça, s'il n'y a que 3 journées dans l'année pour former le numérique, on ne va pas aller bien loin, surtout si c'est des grands discours ces jours-là, même si c'est moi qui les fais. Ça m'arrive, donc je me mets dans le lot. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'articuler ça avec d'autres choses. Et donc, c'est là que dans l'établissement scolaire, il faut arriver à libérer des énergies. Et je trouve que avec le numérique, on est plus dans l'injonction à utiliser, plus dans l'injonction à faire, voire à innover, plutôt que dans « faites simplement, faites en toute simplicité ». Et je remarque qu'un certain nombre d'enseignants l'ont fait. Ils l'ont fait comment ? Ils l'ont fait avec des moyens très modestes, très petitement souvent, c'est utiliser des vidéoprojections un peu de façon particulière, c'est utiliser aussi le mail pour communiquer avec les parents et les élèves d'une autre façon, c'est parfois utiliser un environnement numérique de travail pour avancer, mais c'est des petits pas, et cette politique des petits pas, je pense qu'il faut arriver à la rendre plus explicite et à mieux l'accompagner. Et là, je pense que les inspecteurs, par exemple, ne sont plus en mesure de le faire, et que par contre, c'est ce que l'on voit se faire depuis longtemps, mais qui est maintenant... il devrait être davantage promu, c'est l'apprentissage par les pairs. C'est le rôle des pairs à l'intérieur de l'établissement. Un enseignant jeune qui arrive, il commence par regarder ce que fait son maître de stage. Il en est presque admiratif, il voudrait presque lui ressembler. Sauf qu'à un moment donné, il faudrait peut-être qu'aussi il puisse dire « je pourrais peut-être être mieux que lui, je pourrais peut-être le dépasser, je pourrais peut-être… » Et cette libération-là, elle n'intervient pas facilement. On est plus souvent dans une normalisation que dans une libération. Réapprendre à apprendre. L'autre jour, j'étais avec des élèves. J'avais 70 élèves devant moi et ils ne posaient pas de questions. Et la fois d'avant, j'étais avec des chefs d'établissement et des enseignants, et ils ne posaient pas de questions non plus. Et j'ai l'impression que le drame du monde scolaire aujourd'hui, c'est qu'on ne pose plus de questions. Hein, on reçoit et on ne pose plus de questions. Alors, peut-être que, bah, du coup, le premier acte de formation, d'apprentissage, d'enseignement, c'est réapprendre à poser des questions.
Alors, Bruno dit beaucoup de choses. On aimerait tellement pouvoir rebondir, échanger avec toi, mais on s'est promis de se limiter à une heure et puis de laisser un petit peu de place pour l'envie de la part de nos auditeurs qui iront encore une fois te retrouver dans ce recueil de ces articles que tu as publiés au long cours, tout au long de ces dernières années. Tu as certainement entendu, Régis, que Bruno a utilisé l'expression d'inventer son quotidien. Donc, bien sûr, il y a des auteurs qui reviennent hein, en arrière-plan dans ton bouquin. On pense à Ravardel, bien sûr, et on pense à De Certeau avec l'invention du quotidien et l'art de faire. Tu parles de la créativité des enseignants. J'ai perdu ma question, hein, du coup, avec ton lyrisme, mais j'y retourne. Juste, ouais, c'était pas mal, mais ouais. Ouais, puis peut-être que Régis pourra couper ça au montage. Ah, mais bien sûr, c'était ça. C'était sur... On parle souvent des travailleurs du savoir, hein, parce que là, tu parlais de petits gestes, mais aussi tu parles de l'enseignant ingénieur. Alors moi, j'ai vraiment été interpellé par ce passage sur l'enseignant ingénieur. Qu'est-ce que c'est cet enseignant? Est-ce que finalement, c'est comme tu le disais, ce travailleur du savoir, cette petite main, cette invention au quotidien, millimètre par millimètre, ou alors est-ce que c'est une ingénierie pédagogique, pour reprendre un terme qui est très en vogue en ce moment?
Évidemment que c'est de l'ingénierie pédagogique. Évidemment que c'est de l'ingénierie pédagogique. C'est aussi de l'ingénierie de dispositifs, pas seulement pédagogique. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à une petite unité. Un enseignant est en permanence, pour peu qu'il écoute un peu ses élèves et qu'il soit un peu à l'écoute de son environnement, il est en permanence dans un réajustement et dans une évolution. Et cet ajustement et cette évolution, elle va se faire dans une ingénierie qui, au départ, est assez globale et qui va être une fête d'ajustements successifs. C'est que l'enseignant, face à des hypothèses qu'il a quand il démarre, quand je démarre mon année, j'ai des hypothèses. Alors, je raconte à mes élèves le jour de la rentrée, voilà, cette année, je vous ai préparé ça, je vois bien ça, on va aller dans telle direction, on va ensemble. Et puis, au cours de l'année, il va se passer des choses. Et cette ingénierie que j'ai faite au départ, cette ingénierie du dispositif annuel, va se traduire au quotidien par de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire par de la conception de petits dispositifs. Puis là, je sors d'un cours, je suis pas content, j'avais super chiadé mon truc pour le préparer, ça n'a pas marché, donc je vais reprendre ça. Donc cette ingénierie, elle va être en permanence. En fait, l'enseignant est en permanence dans cette reconstruction, en permanence. Pour peu qu'il ait, et là, c'est pas moi qui le dis, il y en a plein d'autres qui l'ont dit avant, pour peu qu'il ait un minimum de réflexivité. Parce qu'en fait, le secret du bonheur, je dirais pédagogique, mais aussi du malheur pédagogique, vous allez voir pourquoi après, c'est cette réflexivité. Alors pourquoi je dis bonheur? Parce que c'est le moyen justement d'être en permanence en recherche d'amélioration. Mais malheur, c'est aussi une angoisse permanente. C'est-à-dire qu'on est condamné à l'angoisse de se dire, est-ce que ça va marcher? Et si ça marche pas, alors évidemment, il y a une catégorie de personnes qui m'affole complètement, c'est ceux qui, en sortant de classe, en disant « là, aujourd'hui, le cours, il n'a pas marché », disent « mais les élèves sont vraiment mauvais ». Et puis, il y a ceux, à l'opposé, qui disent « mais je suis nul ». Donc, faut trouver ce juste milieu en disant « on n'a pas su s'adapter les uns aux autres, comment on va pouvoir faire ?» Et donc, quand on est avec le numérique, c'est assez, surtout avec le numérique en classe, c'est assez révélateur. Parce que justement, il y a un tiers qui intervient dans la relation pédagogique très souvent. Moi, j'ai travaillé beaucoup à l'époque où c'était un peu lourd, où on n'avait pas beaucoup d'appareils dans la classe, et donc c'était un petit peu compliqué. Et donc, il y avait cet ajustement permanent à faire, et on avait ce tiers qui était la machine, qui venait nous rappeler que parfois aussi, il y avait d'autres contraintes. Et je sais que l'arrivée de l'ordinateur et globalement des tablettes, tout ce qu'on voit dans la classe, est peut-être un bon moyen de faire une sorte de médiation pour se dire, peut-être qu'on peut apprendre par d'autres chemins et que ce n'est pas l'affrontement que nous avons entre nous qui va résoudre tous les problèmes.
Et du coup, ça me fait penser, je fais le lien avec la question suivante, une double lien, où tu cites Geneviève Jacquinot, je crois, qui dit que les nouvelles techno servent avant tout à réactualiser les modèles pédagogiques les plus archaïques. Mais je fais le lien aussi avec ce que tu viens de dire, où tu précises à plusieurs reprises d'ailleurs que ben, le numérique, je crois, comme un amplificateur des contradictions du pédagogue en classe. Ça m'a aussi bien interpellé et beaucoup interrogé parce que... ben, c'est une question qui se pose tous les jours maintenant, puisque, comme tu le dis, le numérique, c'est un fait. C'est un fait même pour l'enseignant dans sa classe.
Alors, Geneviève Jacquinot, que j'ai eu la chance d'avoir comme directrice de thèse en plus, et c'était quelqu'un d'une grande exigence, avait simplement observé qu'à chaque fois qu'une technologie arrive dans le secteur éducatif, elle sert effectivement d'abord à réactualiser les modèles archaïques. On le voit avec le vidéoprojecteur, on le voit avec un certain nombre d'outils. Par exemple, le retour de l'enseignement assisté par ordinateur avec les questionnaires, les quiz, les bulletins de vote, c'est de l'archaïsme. Sauf que ça, c'est le premier temps. Le premier temps, c'est là, on va faire un truc encore plus traditionnel qu'avant. Et puis, une fois qu'on a passé ce temps-là, c'est ce que je n'ai pas dit et qui est pourtant intéressant, c'est qu'une fois qu'on a passé ce temps-là, alors à ce moment-là, on peut évoluer. Et en réalité, au bout d'un moment, il y a des évolutions, qui s'appellent des évolutions minuscules qui se font. Et c'est vrai que les enseignants peuvent avoir tendance, au départ, effectivement, à se rassurer, et c'est légitime. Vous n'allez pas sortir de votre espace de confiance, de votre espace de confort, que j'appelle le confort de pauvreté tout à l'heure, on a des espaces de confort tous. Donc, on ne commence pas par là. Par contre, il y a un moment où, inévitablement, la familiarisation se faisant, on voit arriver à ce moment-là des changements, petit à petit. Mais à chaque fois, on rêve de changements majuscules. Et prenons d'abord les changements minuscules. C'est vrai que je cite beaucoup Michel de Certeau parce que j'ai été très, très marqué par la lecture, en particulier des Arts de Faire, mais pas seulement, et puis de l'itinéraire de Michel de Certeau, Luce Diard et tous les gens qui ont travaillé avec lui. C'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que malgré tout, il y a cette marge de liberté, cette marge d'initiative. Et ça, j'avoue que si dans un premier temps, on se rassure, dans un deuxième temps, on prend un peu cette marge d'initiative.
Non, mais c'est... De toute façon, plus l'émission avance, et plus je me dis c'est vraiment un avant-goût pour donner envie d'aller voir en détail tous les éléments du livre, parce que tout se fait vraiment bien écho, là. Peut-être reprendre un petit peu de champ avec une dernière question autour d'un... Et tu l'as dit à plusieurs reprises, et on le sent bien dans ton livre, que c'est quelque chose qui te travaille, j'ai envie de dire, c'est que là, derrière, de toute façon, et on n'arrête pas de le dire, au-delà de toutes ces questions techniques ou de pédagogie, c'est une question humaine et des questions de société qui se posent. C'est là que tout se joue.
Alors, c'est là que tout se joue... C'est là que tout se joue, et en même temps, malheureusement, il y a un discours qui tend à séparer, discours ambiant, tend à séparer ce qui se fait à l'école de ce qui se fait dans la société, qui tend à séparer, le numérique du reste des finalités de l'école, avec différents discours, hein, les discours désastreux ou les discours assassins, par exemple. On sent bien qu'il y a de la tension derrière, il y a de la tension qui est de l'inconfort. On pourrait analyser toutes ces hésitations-là du moment comme effectivement nous sommes dans une zone d'inconfort, dans une zone de déséquilibre, et cette zone de déséquilibre en ce moment, on essaye de se raccrocher. Alors il y a ceux qui se raccrochent à la pédagogie numérique, il y a ceux qui se raccrochent à la classe inversée, qui se raccrochent au MOOC, qui se raccrochent à ci, à ça. Le problème est ailleurs. Le problème, il est quelle société nous voulons vraiment accepter de faire vivre. Est-ce que c'est une société qui est basée sur une forme, je dirais, de marchandisation de nos relations, ou c'est une société qui marche sur, une nouvelle organisation entre nous, une nouvelle socialisation. Et ça, je pense que l'approche que l'on a à l'école devrait pouvoir permettre d'y réfléchir. Malheureusement, pour l'instant, on est encore loin de là. parce que il faut peut-être attendre que une fois les pionniers passés, une fois que les pionniers auront fini de faire du bruit dans les médias, peut-être qu'il y aura un temps de stabilisation où ces liens humains pourront enfin exister avec le numérique. Pour l'instant, on est souvent sur une médiatisation de quelques événements. C'est pour ça que je critique beaucoup la surmédiatisation des innovateurs, parce qu'elle est justement quasiment un empêcheur de tourner en rond.
Alors là, je vais juste me permettre de rebondir, hein, sauf quand, tu le disais, hein, ces innovations se font au service de la formation de tous. Hein. Je pense à certains nombres de dispositifs, tu sais qu'on parle beaucoup ici des collectifs d'enseignants. L'idée, c'est vraiment cet encerclement positif, de pouvoir dire si un certain nombre ont eu cette, c'est pas agilité, cette intrépidité, je retrouve plus cette audace pédagogique dont tu parles dans le bouquin, c'est pour la mettre aussi au service d'un plus grand nombre qui puisse aussi rentrer dans cette forme de dynamique là. C'est déjà à la fin des trois parties qu'on avait imaginé avec Régis et qu'on souhaitait te proposer. On a dit qu'on restait dans un format d'une heure, donc encore une fois, hein, vraiment, ça n'est juste un Régis qu'une toute petite ouverture, une petite invitation. On avait envie de vous donner envie d'aller retrouver Bruno dans ce bouquin éduquer avec le numérique chez ESF. Et on va passer à la dernière partie de l'émission qui va nous permettre de découvrir quels sont tes coups de cœur ou tes coups de gueule.
Inspiration.
Inspiration.
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Coup de gueule.
Coup de gueule.
Je suis toujours très embêté sur ça parce que je m'énerve et en même temps je m'enthousiasme. Je m'énerve du temps qui passe et qui ne change pas. Et je m'enthousiasme en même temps de la nécessité de ne pas aller trop vite, de prendre le temps. Parce que là aussi, il y a de ce côté-là un rapport. J'évoquais tout à l'heure le rapport au corps. Je pense qu'il faut retravailler sur le rapport au temps. Je pense que là, on oublie certaines choses. Moi, j'adore faire de la montagne, j'adore marcher, même si je ne le fais pas assez et que ça joue sur mon embonpoint, mais il n'empêche que je trouve qu'il y a des choses. Il y a un grand nombre d'auteurs qui ont écrit sur le rôle de la marche. Récemment, j'ai été interrogé sur la question de l'intériorité. Et l'intériorité, on croit que c'est quelque chose de très loin. Et en fait, c'est souvent très proche. C'est-à-dire prendre ce temps de se poser et éventuellement parfois de ne rien faire pour que dans le cerveau, on puisse se retrouver, voire même. Alors, je ne dis pas déconnecter parce que je ne pense pas que la question soit la déconnexion. La question, c'est surtout la prise de distance avec soi-même. Mm-hmm. Avec soi-même. Moi, j'y tiens beaucoup. Alors, j'ai mes jardins secrets pour ça. Et c'est vrai qu'ils sont près des montagnes. Je ne suis pas le seul. Mon ami Cerisier dirait la même chose que moi. Nous avons les mêmes lieux de ressourcement. Quelque part dans le blanc de la neige, mais aussi dans la rudesse du minéral, par exemple, on retrouve des choses qui sont très profondes en soi. Et du coup, lorsqu'on revient à ces technologies, on peut arriver à mieux les situer parce que elles prennent une place ailleurs. Et d'abord, elles prennent une place dans un univers qui est l'univers du construit. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on a construites, que nous, humains, avons construites, que nous, humains, donnons à nos enfants. Et donc, sachons qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est, hyper humain, pour le dire, c'est notre rapport à ce qui reste de nature avec lequel on peut encore se confronter. Là, actuellement, par exemple, je suis beaucoup les propos des gens qui ont fait le tour du monde en bateau dans le cadre du Vendée Globe, là aussi. Et c'est dans leurs propos qu'on va trouver justement ce ressourcement intellectuel qui va nous permettre après ça de reprendre les technologies d'une autre façon.
L'idée, pas de se déconnecter comme tu dis, mais juste de se reconnecter avec soi-même en fait.
Et voilà, pour mieux être connecté avec les autres, il faut d'abord être connecté bien avec soi-même. Mmh. Et il faut prendre le temps de se reconnecter avec soi-même. Il y a plein de possibilités de le faire. Encore faut-il, par exemple, se défaire du diktat d'une sorte d'hypersocialisation qui voudrait nous imposer par le marché. On n'a pas besoin de ça. Alors, on nous dit, oui, mais c'est l'école qui permet de le faire. Non, non, l'école est encore pire dans certains cas. Regardez comme on pressurise les élèves dans ce genre de cas. Ils ont non seulement leurs heures de cours, il y a le travail à la maison, et puis ils ont intérêt à le rendre, puis bientôt même, on va regarder ce qu'ils font à la maison à travers le NT, à travers le tracking. Vous imaginez un petit peu, condamné à apprendre et être surveillé quand on apprend même à la maison. Déjà, moi, j'avais mon grand frère qui m'embêtait pour faire réciter des leçons. Si en plus, il y a des profs qui viennent m'embêter chez moi, non, 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 les technologies doivent rester leur place dans ce cas-là. Hein, que je puisse aussi prendre le droit de ne pas apprendre mes leçons quand même. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bazar?
Il y avait un peu de life hacking là dans ce coup de gueule de Bruno de Vauchelles. Et puis, il y avait aussi des éléments qu'on retrouve dans ton bouquin autour de la question de l'ENT. Et oui, de cette liberté à la rêverie là dont tu viens de parler. Régis, est-ce que tu me permets de prendre la parole pour présenter quelques coups de cœur qui sont, pour rester connectés avec le thème de l'émission, des coups de cœur autour du livre de Bruno, des sujets qu'on n'a pas pu aborder, hein, donc je vais les lancer comme ça pêle-mêle. Alors ça peut être des articles. Il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'est « Et si le ministère proposait une école vraiment numérique ?» Ça va faire bientôt 3 ans sur Nipédu qu'on vous parle de l'intégration du numérique. Bien, en lisant cet article, je me suis dit « Mais est-ce que je n'ai pas fait fausse route pendant toutes ces années ?» En tout cas, on a une autre vision qui nous est proposée par Bruno et je t'en remercie. Des petits passages qui sont très très éclairants. Je pense à la page 73 où tu nous parles des indicateurs posturaux de l'enseignant. Vous savez qu'on parle toujours de posture de l'enseignant, des changements de posture, hein, comme ça, ça revient beaucoup dans les discours des uns et des autres. Ben là, on a une analyse fine de quelles pourraient être les composantes de cette posture enseignante. Ça aussi, ça me sert beaucoup, hein. Tu sais qu'en lisant ça, je me suis dit, je me revois dans le train. Je dois dire que j'ai pris en photo le passage du bouquin que je l'ai envoyé à certains collègues chercheurs en sciences de l'éducation qui travaillent avec moi au quotidien. Et je me suis dit, c'est ça que je voulais vous dire ce matin. Donc merci pour ça. Aussi des ressources, hein, que tu nous proposes, je pense notamment à cette publication sur l'éthique et l'éthique à l'école, un regard posé par des jeunes, donc ce sont des chercheurs, je crois, hein, avec des jeunes dans le Canada francophone, hein, qui ont observé les pratiques numériques des élèves, ce qui me permet aussi de faire le lien avec la prochaine émission dans laquelle on retrouvera Anne Cordier, et c'est fou, j'ai commencé à lire le bouquin, et bon, ne serait-ce que de par les références, ça a fait écho à un certain nombre de choses que tu amènes dans ton bouquin. Par rapport à la déscolarisation, on n'en a pas parlé, je voulais vraiment en parler, mais Régis, hop, a fait ses choix. Tout ce qui traite de la pédagogie dans les scolarisations de bordure, moi j'appelle ça comme ça, tu nous as dit que tu as longtemps enseigné en lycée professionnel, on peut aussi aller voir du côté de l'enseignement spécialisé où peut-être le carcan scolaire et la pression scolaire est moins forte et du coup où on a des initiatives pédagogiques qui sont tout à fait intéressantes. Et puis quand on reprend l'histoire de la pédagogie et des pédagogues du XXe siècle, bah, on est souvent sur ces contours du système scolaire. Et puis j'ai retrouvé mon article de chevet, tu le sais, je t'en ai déjà parlé, celui qui est affiché dans tous mes bureaux, c'est celui autour de l'incertain et de l'inattendu. Voilà, qui s'appelle Incertain, inattendu et à peu près. Et quand je l'ai retrouvé, vous savez, c'est comme ce tube qu'on retrouve dans une compilation d'un chanteur qu'on apprécie particulièrement. Je me suis dit, ah voilà, il est là, voyons voir comment il a été actualisé par Bruno. Et je l'ai relu avec toujours autant d'émerveillement. Donc, merci pour ce bouquin, Bruno, et puis merci pour ta présence.
Ben, merci à vous, hein, peut-être. Oui, je sais pas, Régis.
Ouais, j'ai présenté aussi deux coups de cœur en lien avec ton livre, hein. Qui sont cités à plusieurs reprises. L'établi de Robert Linhart, c'est souvent cité, enfin souvent, je le vois régulièrement dans les études autour du numérique. Et pour aller ben plus loin juste que cette notion d'établi, je suis tombé sur une semaine spéciale de l'heure bleue de Laura Adler sur France Inter autour de Robert Linhart et comment c'est bien plus en fait que ce à quoi je m'attendais. Hein. Le nom de l'établi, il fait ben, référence à ce fameux établi que l'ouvrier adapte à ses besoins, mais il y a aussi toute une recherche philosophique là, et on parle souvent avec Fabien du monde ouvrier justement, et là c'est vraiment à aller écouter, c'est des personnes qui sont allées s'établir comme des ouvriers, des penseurs qui sont allés vraiment dans des usines là pour le coup chez Peugeot, s'installer et travailler vraiment comme un ouvrier pour comprendre le monde ouvrier et mieux articuler avec le monde ouvrier et le monde des idées, on va dire. Donc vraiment aller découvrir si vous avez l'occasion soit de lire le bouquin, soit de cette heure bleue où on entend, et visiblement fait très rare, parler Robert Linhart lui-même dans une des émissions de la semaine, vraiment intéressant. Et un deuxième, peut-être un peu plus technique, mais moi je sais que j'avais adoré quand je l'avais lu, c'est le bouquin de Pierre Rabardel, Les hommes et la technologie, une approche cognitive des instruments contemporains. Enfin, pour ceux qui s'intéressent d'un point de vue vraiment technique et cognitif, c'est ardu, mais c'est passionnant. Et comme tu le cites deux fois, je me dis que c'est l'occasion d'en reparler un petit coup ici.
Instruments, artefacts, affordances, ouais, outils, tout ça. Voilà, catacrèses, on retrouve tout ça aussi chez Bruno qui intègre ça à sa réflexion. 59 minutes et 57 secondes, est-ce que vous le croyez ça, messieurs? Incroyable, on est à l'heure.
Félicitations, beau travail, magnifique.
En tout cas, on a que vous fait. Soyez prof, que vous soyez parent, que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur ou politique, ou a vraiment un bouquin à aller lire parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ben, vous, enfin, il ne voit pas. Mais là, je vous montre, j'ai des tonnes de post-it dedans pour, comme référence, c'est incroyable. Non, vraiment, à aller lire. Et là, c'est un tout petit avant-propos qu'on vous a proposé d'une heure. Il faut vraiment aller lire le bouquin de Bruno.
Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, c'était un vrai plaisir de passer ce moment-là avec vous. On se connaît depuis un certain temps déjà, on se croise et j'apprécie toujours nos échanges. Et merci d'avoir permis de mieux connaître ce travail.
En tout cas, on espère avoir donné vraiment envie à nos auditeurs d'aller s'y jeter et de le trouver. Ben, on vous mettra ça dans les notes de l'émission. Encore un grand merci Bruno et puis on se retrouve
Bientôt, j'espère, sur un événement en vrai, comme on a l'habitude de le faire.
Fabien, nous on se dit à dans un mois.
Ouais, dans un mois, j'ai dit on retrouvera Anne Cordier, on continue sur notre trajectoire littéraire, on laisse aussi, tu vois, un petit peu le numérique de côté pour aller voir dans les bouquins, ça nous fait aussi du bien et ça nous permet de rester connectés à nous-mêmes.
Exactement. Bon, ben à bientôt, encore merci Bruno.
Bonne soirée à tous, à bientôt. Au
merci
revoir.
Bruno, merci Régis. Et surtout on garde la pêche.